pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 20 juin et il est 14h passé de quelques secondes à l'horloge d'Eau de Radio. Aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Sylvère et comme dit le dicton, Saint-Sylvère froid et pluvieux annonce un été grincheux. Autant le dire tout de suite, quel que sera le temps, le sort en est jeté cet été et je ne serai pas responsable. Mais si l'été est pluvieux, cela nous laissera le temps de prendre notre temps de regarder quelques films. En parlant de films et de grincheux, c'est j'ai avec moi en studio Patrick qui, comme l'un des sept nains ou l'un des schtroumpfs, peut être grincheux ou joyeux, quel que soit le temps. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Annelie, je vous remercie pour cette présentation tout à fait accorte. Et je peux être grincheux et joyeux en même temps.
Aussi. M'accompagne également celui qui se sert de tous les instruments sans s'en jouer aucun, avec alors pluie ou beau temps, à vous de voir. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Annelie, bonjour Patrick, mais qu'est-ce que vous racontez?
Bonjour Jean-Jacques.
Comment savez-vous que je ne joue d'aucun instrument?
Je n'en sais rien. Peut-être du pipeau. C'est ce que j'allais dire.
Je joue de la clé de 12.
En effet, mais la clé de 12, c'est un...
Et Patrick, vous commencez par poser une question.
Eh bien oui, figurez-vous. Allez-y. Pourquoi devient-on réalisateur?
Bonne question.
Alors à cette question essentielle, il convient de préciser ce qu'est un réalisateur. Alors d'après Larousse, le réalisateur est la personne responsable de la réalisation d'un film. Bon d'accord, monsieur Larousse, mais de quoi est-elle responsable, cette personne? Eh bien en fait, de tout. Quand il n'écrit pas lui-même le scénario, il le choisit. Il détermine le thème de son prochain film. Il assume totalement les prises de vue, la direction d'acteur, le son, les lumières. Il valide chaque élément pour que son film soit conforme à ce qu'il souhaite. Il y a des réalisateurs qui écrivent eux-mêmes leur scénario. C'est le cas pour Woody Allen, pour Michel Audiard, pour son fils Jacques, pour Godard, pour Bertrand Blier et le palanquier d'autres. L'avantage d'être à la fois scénariste et réalisateur, c'est que l'on est maître de tout le processus créatif. Alors finalement, le seul écueil vient du producteur. Vous savez, le producteur, c'est celui qui met de l'argent dans le projet ou qui trouve l'argent pour le projet. Sans producteur inventif et courageux, point de film d'auteur. Les blockbusters qui font des dizaines de millions d'entrées sont donc les rois du pétrole. Ils peuvent avoir le scénario aussi mince qu'une feuille de papier toilette. Ils peuvent avoir le réalisateur aussi médiocre que désintéressé. Ils feront des entrées car le sujet importe peu. La réalisation d'un film implique d'avoir une vision globale de celui-ci. Il est en effet essentiel de maîtriser un peu ce qu'est une profondeur de champ, d'ouverture, de cadrage. Ainsi, le réalisateur peut savoir s'il souhaite un gros plan ou un plan américain. Des réalisateurs en pagaille de ceux que l'on aime, comme De Sica, des frères Cohen ou Moretti, il va en être question pendant toute cette heure de l'avant-dernier épisode de 6 décembre sur Eau de Radio. Épisode intitulé « Ma préférence à moi ».
Pour commencer, direction l'Italie. Vittorio De Sica débute sa carrière en 1923. Il jouera dans plus d'une centaine de films. Dans les années 30, il passe de l'autre côté de la caméra à son actif à peine une trentaine de films. Pourtant, il va donner naissance à des chefs-d'œuvre du néo-réalisme.
Ah oui, alors je voulais juste apporter une précision sur le néo-réalisme. Vous savez que c'est un peu ma tasse de thé, comme on dit.
Un peu, oui.
Tout à fait.
Alors le mouvement néo-réaliste est né dans l'Italie de l'après-Seconde Guerre mondiale. Voilà, il était en réaction au cinéma mussolinien, vous savez, qui se voulait triomphant, exubérant. Mais avec les néo-réalistes, on revient à la réalité. Une Italie exsangue avec une grande précarité endémique, d'où un cinéma à fort caractère social. Alors je ne reviendrai pas sur le chef-d'œuvre de Vittorio De Sica, vous savez c'est le voleur de bicyclette hein, qui dépeint la pauvreté de l'Italie de l'après-guerre, et on va s'arrêter sur un film sorti en 1963, un de ses films de De Sica, qui obtint l'Oscar du meilleur film étranger. Son titre, Hier, aujourd'hui et demain, un film tout en finesse et humour où pointe ce qu'on va pas tarder à appeler la comédie à l'italienne.
Si mes renseignements sont bons,
oui.
Le film est composé de trois sketchs se déroulant dans trois villes, Naples, Milan et Rome. Et les trois sont interprétés par le duo Sofia Loren et Marcello Mastroianni.
Voilà, et donc ça, c'est ce qui donne le côté homogène au film. Mais alors après, donc on a trois sketchs différents. Alors dans le premier, hier, Adelina est une Napolitaine resplendissante qui pratique la contrebande de cigarettes, tandis que son mari, ben, chômeur. Et elle enchaîne les grossesses pour éviter la prison, bien sûr. Et elle vampirise son mari épuisé par tant d'appétits sexuels et une marmaille qui se multiplie à l'infinie. Ça, c'est le premier sketch. Dans le second, le deuxième, aujourd'hui, l'espace habitable se limite à une Rolls-Royce, celle que conduit Anna, une grande bourgeoise milanaise, pleine de morgue, qui s'ennuie ferme et amène son ami amant d'origine plus modeste, dont au fond elle se fiche éperdument. Et évidemment, chacun retrouvera sa place dans la société, la relation pseudo-amoureuse n'y résistant pas. Enfin, dans Demain, Mara est une prostituée de luxe, femme au grand cœur qui habite à Rome à côté d'un jeune séminariste. Celui-ci s'en amourache. Mara se prête au jeu, mais se rend compte de son erreur quand le séminariste décide d'abandonner ses études. Et alors ce sketch se termine par un striptease de Sophia Loren en Port-Jartel et Barésie devant Mastroianni tétanisé, jappant et ululant de désir. Ah, c'est à voir et à revoir, c'est franchement...
Un Mastroianni utilisé à contre-emploi dans le film. Lui qui passait pour un séducteur, dans une interview, Marcello revenait sur cette image de séducteur.
Je me fâche quand, quand les gens me demandent, vous êtes le Latin Lover, vous êtes le séducteur. Mais je ne suis pas du tout un séducteur, même pas un Latin Lover. Allez, vous n'avez jamais regardé mes films. Si vous aurez regardé mes films avec une certaine attention, vous aurez remarqué que je n'étais jamais un séducteur, jamais un Latin Lover, plutôt un impuissant, si vous voulez. Dans 8 et demi, il était un demi-impuissant. Puis j'ai fait un fils appelé Casanova 70, il est un autre impuissant. Divorce à l'italien, c'était un autre impuissant. C'est une série, une galerie d'impuissants. Chose qui m'a toujours amusé beaucoup, parce que j'ai toujours aimé détruire l'image et l'idée de l'italien Latin Lover. Amateur, ce n'est pas vrai du tout. L'italien est amateur comme tous les autres, avec une grande limite. Il a besoin de parler, de construire une histoire, de croire que c'est un grand amour. Alors vous voyez la mesure de l'impuissance. J'ai toujours dit à des femmes étrangères surtout, si un italien dans la rue, comme vous dites, il vous suit, vous dit des choses... quelquefois vulgaire, quelquefois charmant, mais proposez d'aller au lit tout de suite. Il partira en grande vitesse.
Alors, chez De Sica, Marcello incarne chaque fois donc, un homme castré par une épouse-mère sexuellement insatiable, par une maîtresse ayant de l'argent pour seul Dieu, par une prostituée au grand cœur qui se rappelle en plein striptease qu'elle a promis à Dieu une semaine d'abstinence.
Oh là là là. Alors, Marcello Mastroianni et Sophia Loren tournèrent pas moins de 14 films ensemble entre 1950 et 1994. Alors, si on connaît le chanteur italien Paolo Conte, on connaît un peu moins son frère Giorgio, qui lui aussi a été avocat avant de devenir chanteur. Et alors, on va l'écouter dans sa chanson « Gne gne ».
Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità. Non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è si riduceva dei gne 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 rivista alla TV. 10 anni dopo, forse di più, un calendario sopra tu, solite pose, un cliché de ravù. Ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne. Gne 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 gne.
Avec vous, Annelise, nous quittons l'Italie et donc Giorgio Conte pour un autre pays latin.
Oui, nous partons en Espagne.
Ah,
et oui, je retrouve avec plaisir le réalisateur de renommée mondiale, Pedro Almodovar, un véritable artiste qui a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma contemporain.
Qui laisse encore.
Qui laisse encore, tout à fait. À 73 ans d'ailleurs, il est connu pour son style audacieux, sa narration complexe et sa représentation franche de la société espagnole.
D'ailleurs, on peut dire que l'une de ses caractéristiques les plus reconnaissables de son travail est l'utilisation audacieuse de la couleur.
Et oui, tout à fait. Ces films sont empreints de palettes vives et saturées, créant des compositions visuelles éclatantes et qui captivent l'œil et stimulent les émotions. Mais Almodovar ne se contente pas de créer un spectacle visuel. Il excelle également dans la représentation des émotions humaines les plus profondes. Ses films explorent l'amour, la passion, la douleur et le désir, nous offrant des portraits intimes et complexes de personnages qui résonnent avec notre propre humanité.
Et dans une interview, Almodovar revenait sur sa réputation de provocateur.
A mí me resulta muy difícil hablar de la provocación.
Écoutez, il est très difficile pour moi de parler de la provocation.
Porque la provocación nunca ha sido
Parce
algo deliberado
que la provocación n'a jamais été quelque chose de délibéré chez moi.
Yo soy una persona muy inocente.
Je suis quelqu'un de très innocent.
Casi naïf, no idiota,
je dirais presque naïf, pas idiot, mais assez naïf.
Entonces, todos esos temas,
donc pour moi, tous ces thèmes
que se dice que son tabús, a mí
dont on dit que ce sont des tabous, pour moi, ce sont des thèmes qui relèvent de la vie quotidienne.
Pertenecen a mi vida, desde luego.
Ce sont des thèmes
y
qui appartiennent
no
à ma vie.
Veo ni prohibidos,
et je ne le conçois pas en tant qu'interdit.
A mí no me parecen escandalosos.
Donc pour moi, ils ne me paraissent pas scandaleux.
Entonces, yo trato de hablar del modo más directo.
J'essaie de parler de la façon la plus directe possible
y explicar mi punto de vista.
Et expliquer ainsi mon point de vue.
Y lo hago de un modo natural.
Et je le fais de façon naturelle.
Entonces, nunca tengo la sensación
donc,
de
on n'a jamais l'impression d'être en train de provoquer.
Y desde luego, nunca tengo tampoco
et je n'ai pas non plus l'intention de provoquer.
Hablo de naturalidad.
À l'évidence, lorsque je parle de quelque chose de naturel, je parle d'un système de liberté, dans le cadre d'un système de liberté. Et c'est selon moi, est naturel. À l'évidence, au cours de la période franquiste, je n'aurais pu faire aucun film.
Oui. Y por supuesto a los nostálgicos
à l'évidence,
de
pour les nostalgiques de ce système, je suis une réincarnation du démon.
Oui.
Ah oui. Annelise.
Oui.
Est-ce que l'on peut dire que les femmes occupent une place centrale dans l'univers d'Almodovar?
Je pense
bah oui.
qu'on peut le dire. Il a donné une voix et une visibilité à celle-ci dans le cinéma espagnol, offrant des rôles complexes et puissants à des actrices talentueuses. Carmen Mora, Victoria Abril, Marisa Pérez, Rosy de Palma ou Penélope Cruz ont brillé dans ces films, apportant une profondeur et une authenticité inoubliables à leurs performances. Il a ainsi réalisé Tout sur ma mère.
Formidable.
La piel que habito.
Formidable.
Attache-moi.
Formidable.
Volver.
Formidable.
Douleur et gloire.
Formidable.
Et j'en passe. tous des films qui m'ont marqué par leur traitement des relations humaines et cette place forte accordée à la femme, figure incontournable, rebelle, intelligente et puissante.
Et alors l'Espagnol n'est pas qu'un brillant cinéaste, c'est aussi un amoureux absolu de la musique.
Et oui, depuis ses débuts dans les années 80, il n'a eu de cesse de revenir à la chanson latine dans ses films, de Cavela Vergas à Luis Casal, en passant par Caetano Veloso ou Sara Montiel, son univers sonore électrique est à la hauteur de ses images. Entre bandes originales, chansons populaires, standards internationaux, ses films s'écoutent autant qu'ils se regardent.
Alors la bande, pour illustrer ce que vous dites, la bande musicale du film Talon Aiguille, sorti en 91, comporte Un Anno de Amor, interprété par Luis Casal.
Agno.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Patrick, vous êtes là, vous êtes en direct
je
avec
suis,
moi.
Je suis
oui,
là, je suis
vous êtes présent.
Et donc, pour votre premier choix, Patrick, direction New York.
Yes.
Et plus précisément, Manhattan, l'antre d'un certain Woody Allen.
Je suis marxiste.
Ah bon ?
Tendance Groucho,
déclarait-il
en tant que fan de Groucho Marx. Alors, associé à sa composition d'intellectuel chétif à lunettes, Woody Allen apparaît comme l'ambassadeur de l'angoisse métaphysique sauce new-yorkaise, pétri de philosophie scandinave et de jazz mainstream. Plein d'esprit, Woody Allen est à l'origine d'une tendance auto-fictionnelle du cinéma. Il interprète lui-même des rôles qui lui ressemblent dans des œuvres qu'il dirige. L'importance de son œuvre correspond à la notion même de l'auteur. Woody Allen est quelqu'un qui écrit, tant ses gags que ses films.
Et dites-moi, il paraît que c'est en montant sur scène pour des stand-up qu'il développe ses dons pour la comédie.
On ne peut rien vous cacher.
Ah, vous avez vu ça.
Oui, mais c'est le cinéma qui lui permet d'ouvrir son talent en adaptant son personnage à des rôles différents, dont celui de « Tombe les filles et tais-toi ». Puis il passe à la réalisation avec des escapades dans le burlesque telles que « Prends l'oseille et tire-toi », voilà, c'est un peu. « Bananas » ou « Guerre et amour », interprétant lui-même les rôles d'hommes veules liés à des aventures hors du commun. Cette première période prend fin avec « Annie Hall », où il confronte son personnage à son alter ego féminin, interprété magnifiquement, enfin c'est sublime, par Diane Keaton, qui est également au casting de Manhattan, où l'auteur magnifie New York avec un scope, un Gershwin en fond sonore. Son cinéma s'éloigne du comique à mesure qu'il fait prédominer ses influences très diverses. Intérieurs, proche de Bergman, le proustien Stardust Memories, ou la plupart de ses films où plane l'ombre de Freud.
Et on va écouter, tiens Patrick, un court extrait de son film. Je pense qu'un des plus aléniens qui existe, si le mot, on peut l'inventer.
On peut l'inventer.
Ce film, c'est Harry dans tous ses états, sorti en 97.
Oui. Sixième étage, extrémiste de droite, serial killer, avocat médiatique.
Je veux que tu foutes le camp d'ici. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la plus intelligente des femmes n'est pas capable de faire la différence entre une insignifiante passion sexuelle ardente et le confortable train-train d'un bon mariage solide.
Harry, dis-moi seulement si elle a été la seule ou s'il y en a eu d'autres.
Non, Amy Pollack a été la seule et puisse Dieu me foudroyer sur place si je mens.
Tu es un athée, Harry.
Oui, on est tout seul dans l'univers. Tu vas me rendre responsable de ça?
Ah, j'en ai marre de cette fouille.
On passe à l'action?
Tu veux pas parler un petit peu avant?
Parler? Pourquoi?
Je sais pas. Enfin, la plupart des clients aiment pas sauter direct au lit sans parler un peu. Ils trouvent que ça fait trop commercial.
La filmographie de Woody Allen est très diverse, mais cependant bornée par ses égéries successives, comme Diane Keaton, on l'a vu, Mia Farrow et plus récemment Scarlett Johansson.
Cinéaste new-yorkais par excellence, Woody Allen s'est toutefois exporté en Europe.
Eh bien oui, à Londres pour une trilogie, Match Point, oui, Scoop et Le rêve de Cassandre. À Barcelone pour y rencontrer Penélope Cruz dans Vicky Cristina Barcelona. Formidable. Il retrouve New York en 2009 avec What Other Work, avant un passage pour Paris dans Midnight in Paris, qui fait l'ouverture du 64e Festival de Cannes. Après la comédie To Rob With Love, réalisée en 2012, il réalise Blue Jasmine, porté par l'interprétation de Kate Blanchett, puis Magic in the Moonlight. En 2015, il offre à Joaquin Phoenix le rôle titre dans L'homme irrationnel. Alors, je préfère survoler sa longue carrière. C'est un réalisateur prolixe, bavard, mais j'ai une tendresse toute particulière pour deux de ses films. Mais nous en parlerons un peu plus tard.
Vous savez que Woody Allen est venu à Bordeaux une année. Il était venu, oui, pour la présentation d'un de ses films à l'UGC Ciné-Cité.
D'accord.
Ce film qui ne fait pas partie de ses meilleurs, c'était Melinda et Melinda. Oui. Si vous voulez, c'était la même histoire racontée façon en comédie
comique
et façon en drame.
Ouais.
Ça n'a pas très bien marché.
Oui, j'imagine.
Bon, on le sait, le jazz tient une place très importante dans les films de Woody Allen. C'est ainsi que dans Manhattan, on retrouve Coleman Hawkins dans This Wonderful.
Thank you.
Qu'est-ce que vous voulez me dire, Anne-Lise ?
Je voulais juste vous dire que Jean-Jacques, pour votre seconde chronique,
oui.
Vous revenez en Italie.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Où de 1976 à 2023, Nanni Moretti a réalisé 16 longs métrages.
Oui, dont en 89, Palombella Rossa, l'histoire d'un homme qui perd la mémoire suite à un accident et qui essaie de la retrouver en jouant au water-polo et qui finit par comprendre qu'il est communiste. Ah oui.
Mais en fait, ce sont deux autres films que vous avez retenus.
Absolument.
Et le premier d'entre eux est sorti en 2011.
Voilà, alors cette année-là, Moretti présente à Cannes Habemus Papam, 2 ans avant la démission de Benoît XVI. Piccoli joue un cardinal nommé pape, mais qui est en proie au doute. C'est prémonitoire, finalement. Et au moment d'entrer sur le fameux balcon qui surplombe la place Saint-Pierre, le cardinal Melville refuse de montrer sa tête. L'habit est trop imposant et le pape, encore inconnu, fait une dépression. Alors donc le porte-parole du Vatican convoque alors le psychanalyste le plus célèbre de la ville, joué par Moretti lui-même, pour débloquer la situation. Mais oui, celui-ci ne peut parler seul au pape, toujours entouré de la curie. De plus, il n'a le droit de parler ni des rêves, ni de la sexualité de son patient. Alors du coup, le psychanalyste renonce. Alors ces deux films, on peut voir deux originalités à part le thème. Il y a d'abord l'histoire du psy au Vatican. C'est rare,
oui, c'est oui.
Très, très rare. Et puis un tournoi international de volley qui est organisé dans le Vatican entre les cardinaux, qui est organisé par ce même psychanalyste qui a fait ça pour soutenir le moral et celui du pape. Voilà.
Un géant qui doute, ce sera le dernier premier,
ouais.
Rôle de Michel Piccoli. Ouais. Lors d'une interview, il revenait sur son premier contact avec Moretti. Ce sera suivi par la bande annonce du film.
J'ai dit oui tout de suite. Lui n'a pas dit oui tout de suite. J'étais très heureux parce qu'il m'a demandé de faire un essai. Je l'ai vu arriver à Paris avec mon habit de pape sous le bras. J'avais un peu appris le texte en italien. Il m'a dit, bon, très bien, merci. Et je lui ai dit merci aussi. Et quelques jours après... Et il l'a dit, c'est vous.
Melville, Melville, Melville.
Habemus Papam. Ac reverendissimum.
Les cardinaux sont tous bien disposés à avoir recours au soutien de la psychanalyse, nonobstant un naturel scepticisme qu'il vous est facile d'imaginer.
Je l'imagine, oui. Je suppose que je ne peux pas demander à...
Certainement.
J'avais bien pensé que le sexe, on ne pourrait pas. Et une allusion à la maman ?
Avec une grande discrétion.
Dites-moi, des problèmes avec votre foi ?
Quelqu'un a-t-il demandé au docteur s'il est croyant ?
1 milliard de personnes vous attendent maintenant.
Donc vous travaillez ?
Non.
Quel est votre travail ?
Moi, ce que je fais ?
Oui.
Rien que ça, ça donne envie de le revoir.
Ah oui, bien sûr.
Ah oui, oui, vraiment. Alors, en 93, 18 ans avant Habemus Papam, Moretti réalisait Journal intime. Le film est à la fois un bilan et une réflexion sur le monde que Moretti a traversé. Et il est découpé en 3 chapitres.
Ouais, décidément, c'est
par épisode. Hein.
Ouais, voilà. Alors là, dans le premier de ces chapitres, qui s'intitule « Sur ma Vespa », c'est une promenade du réalisateur Moretti en Vespa à travers les quartiers d'une Rome déserte dont on saisit l'atmosphère estivale. Le deuxième chapitre, intitulé « Les îles », nous entraîne dans les îles éoliennes où, pour travailler au calme, Moretti se réfugie chez son ami Gerardo, qui déteste la télévision. Alors c'est la déception totale. Bruit et touristes envahissants sont le lot quotidien. Et surtout, Gerardo devient accro du petit écran en découvrant amour, gloire et beauté. Alors, pour y échapper, suivra un périple ponctué d'étapes sur les îles, le tout scandé par la mélancolie du voyage en bateau. Enfin, la troisième partie, intitulée « Les médecins », est la chronique d'une maladie. Voilà, avec l'émergence des symptômes, la difficulté du diagnostic, la guérison. Moretti avait découvert à l'époque qu'il était affecté d'un lymphome du poumon, mais qui a pu être soigné. Le chapitre est composé donc d'une série de déplacements d'un médecin à l'autre, d'un hôpital à l'autre, branque-ballée à gauche et à droite. Quoi.
On peut dire que le style Moretti est identifiable par le discours, le timbre de sa voix, ouais. Et ses images. ce qui en fait un des plus grands cinéastes actuels.
Eh bien, on va être d'accord.
Ah ben, vous voyez.
Voilà.
La déambulation en Vespa de la première partie du film est accompagnée par Didi de Khaled.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Vous n'avez pas l'air très aimable, alors je vais vous le dire. Sur 91.3, O2 Radio, bien entendu.
Tiens Patrick, tant qu'on y est, vous faisiez allusion à deux films de Woody Allen, ben on voudrait en savoir un peu plus. Quand
eh bien oui, avec grand plaisir. Alors... Le premier est La Rose Pourpre du Caire.
Oui.
Un film magnifique. Dans les années 30, aux États-Unis, pendant la Grande Dépression, une jeune serveuse de brasserie, Cecilia, a un mari chômeur et tire au flanc. Alors elle se console en passant ses soirées au cinéma, qui est sa grande passion. Et un jour où elle est venue revoir pour la cinquième fois le même film au Jewel Palace, un incident extraordinaire se produit. L'un des personnages, Tom Baxter, l'interpelle dans la salle. Il sort de l'écran, il passe du film en noir et blanc au monde en couleur et l'entraîne dans une aventure au rebondissement imprévu. Baxter nous entraîne, nous aussi, spectateurs, dans un monde où le réel et l'irréel se côtoient. Baxter est un personnage de fiction qui va être confronté rapidement à la dureté d'un monde réel, d'un monde où les coups sont portés, où les balles sont réelles, mais où l'amour existe vraiment. On est à mi-chemin entre la farce métaphysique et le délire philosophique d'un auteur fécond qui ne semble pas avoir de limite à l'imagination. Bref, Woody Allen n'a de cesse que de vouloir nous perdre. Il y parvient en réalisant un film à tiroir, tiroir qu'il ouvre et referme à sa guise, mais c'est aussi une formidable réflexion sur la création.
En 1995, dans l'émission Bouillon de culture, Bernard Pivot posait la question de Proust à Woody Allen. Voici quelques-unes de ses réponses.
Votre mot préféré, Woody Allen?
My favorite word I can't say on television.
Non, ça je peux pas vous le dire à la télévision.
Je peux pas vous le... Ah bon? Mais si, dites-le, si, au contraire.
Oh no, no, I can't.
Ah non, ça vraiment, je ne peux pas.
Pourquoi?
Because my mother might be watching.
Parce que ma mère regarde peut-être l'émission. Non, non, ça je ne peux pas.
Votre drogue favorite?
Aspirin.
Ma drogue favorite, l'aspirine.
Le son, le bruit que vous aimez?
I guess a gunshot.
Oui, peut-être un coup de feu.
Et le son, le bruit que vous détestez?
I don't like the sound of my voice.
Je n'aime pas le son de ma voix.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Bonne question.
I guess I would like, if I could die, I would like to come back as a sponge.
Peut-être être réincarné en éponge.
En éponge.
It's lovable.
Écoutez, c'est très joli, c'est sympathique. L'éponge n'a pas d'ennemis.
Alors, pendant qu'on écoutait les réponses au questionnaire de Proust, j'ai regardé vos fiches, Patrick, oui. Là, et je constate que le deuxième film, c'est Ombre et brouillard.
Tout à fait.
Nous sommes dans une petite ville où rôde un étrangleur, c'est ça?
Oui, alors Ombre et brouillard, c'est un film qui n'est pas très très connu de Woody Allen, qui est moins connu que les autres, mais qui a un côté très très attachant. Alors, Kleinman, qui veut dire petit homme en allemand, est un employé sans envergure et à l'évidence poltron, et recruté de force par la milice qui vient de se former sans qu'il sache quel rôle il devra y jouer. Irmi, une avaleuse de sabre, quitte le campement d'un cirque à la suite d'une dispute avec son petit ami, le clown. Perdue dans la nuit, elle se fait héberger dans un bordel. L'un des clients, Jack, a un coup de foudre pour Irmi et lui propose de coucher avec elle. Alors les filles lui font savoir qu'Irmi n'est pas prostituée, mais Jack s'obstine et fait monter les prix, essuyant toujours les refus d'Irmi. Mais quand il propose 700 dollars, eh ben, elle se laisse tenter. Alors les deux jeunes gens couchent ensemble, et contre toute attente, l'expérience se montre enrichissante pour Irmi. Mais celle-ci est raflée par la police pour prostitution illégale, et au poste, elle fait la connaissance de Kleinman. Ils déambulent ensemble dans les rues, Irmi veut donner l'argent gagné à l'église et envoie Kleinman faire le don. Mais apercevant une pauvre femme abandonnée avec son bébé, elle demande à Kleinman d'aller en récupérer la moitié afin de les lui donner. Alors le cinéaste s'amuse avec les codes et rend un hommage appuyé au cinéma expressionniste allemand. Alors on pense à Murnau et son Nosferatu, bien sûr. Le noir et blanc est parfait, les images sont magnifiques, les personnages sont attachants et l'ambiance caféienne est caféienne. Et le film, bien sûr, est à découvrir.
Kafkaïenne. Oui, kafkaïenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais kafkaïenne,
ça veut dire que c'est kafkaïen.
Voilà, exactement.
En gros, ça vient de Kafka.
On est d'accord sur le principe.
D'accord sur le principe.
Du jazz, encore du jazz, toujours du jazz chez Woody Allen. Cette fois, c'est avec George Shearing et son Lullaby of Birdland, tiré du film Celebrity. Thank you.
ça.
Ah bon, ah bah nous arrivons à la dernière préférence de l'épisode, et non des moindres. Votre choix, Lise, s'est porté sur deux frères.
Eh oui, les frères Coen, Joel et Ethan, réalisateurs renommés du cinéma américain. Leur collaboration artistique a donné naissance à certaines des œuvres les plus emblématiques de ces dernières décennies. Leur style distinctif mêle habilement humour noir, ironie et drame, créant des films uniques et inoubliables, des films tels que Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men. Oh. Qui ont remporté de nombreux prix et ont acquis un statut culte.
Oui, alors c'est vrai que les frères cumulent les récompenses.
Tout à fait. Ça, Et oui, Joel Coen, oui. L'aîné, plus porté sur la réalisation, et vrai. Ethan Coen, de 3 ans son cadet, investi davantage dans la production, ont été distingués par une vingtaine de prix divers en tant que réalisateur, scénariste et producteur.
Alors, j'ai vu que pour le seul festival de Cannes, ce sont 5 distinctions qui leur ont été remises. Une palme d'or, 2 prix de la mise en scène et un grand prix, rien que ça.
Et en 2015, les deux frères ont co-présidé le jury du 68e festival, ce qui marquait l'aboutissement d'une relation très proche avec le festival, comparable aux frères Dardenne. No Country for Old Men a reçu 4 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, et meilleur acteur dans un second rôle. Pour Javier Bardem, qui fait froid dans le dos. Et son personnage d'Anton Chigurh, tueur à gages psychopathe à l'étrange chevelure. Voici un extrait.
C'est quoi le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face ?
Ah ?
Le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face ?
Je sais pas du tout,
Annoncer.
J'annonce ?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on parie ?
Annoncer.
Mais il faudrait savoir sur quoi est-ce qu'on parie.
Il faut que vous annonciez. Je peux pas le faire à votre place. Ce serait pas juste.
Mais j'ai rien parié, j'ai rien misé.
Bien sûr que si. Vous avez passé toute votre vie à parier sans le savoir. Vous savez de quelle année elle est, cette pièce ?
Non.
1958. Cette pièce a mis 22 ans à arriver ici. Et maintenant, elle est là. Et c'est pile ou face. À vous de jouer, annoncé.
Et c'est-à-dire qu'il faudrait que je sache ce qu'il y a à gagner ?
Tout.
C'est-à-dire ?
Vous avez tout à gagner, annoncé.
D'accord. Face, alors ?
Bien joué. La mettez pas dans votre poche.
Hein ?
Pas dans votre poche, c'est votre porte-bonheur.
Mais où vous voulez que je la mette ?
Surtout pas dans la poche. Sinon, elle se mélangerait aux autres et ce serait plus qu'une pièce de monnaie.
Il a gagné son pari, imaginez qu'il l'ait perdu.
Magnifique. Ça fait froid dans le dos. Voilà. Les frères Coen ont un talent indéniable pour créer des personnages mémorables et des dialogues incisifs. Leur cinéma explore les aspects sombres de la nature humaine avec une touche d'absurdité et de satire. Leur vision artistique singulière et leur capacité à mélanger différents genres en ont fait des cinéastes respectés et influents dans l'industrie du cinéma.
Alors, No Country for Old Men, il est passé récemment à la télé. Oui. Et j'ai en mémoire la dernière séquence où il roule en voiture,
ah oui.
Bardem. Tout est calme et il cartonne une voiture à un croisement alors qu'il n'est pas en tort. Et son bras sort, son os sort de son bras. Il se fait mettre une attelle par un gamin qui passait par là et part en marchant avec le bras qui pend.
C'est
terrible. Bon, il ne faut pas oublier aussi l'importance qu'ils accordent, les frères Coen, à la musique dans leur œuvre.
Et oui, les deux frères ont exploré en cours de leur carrière une large palette musicale à travers leurs films. Témoin, la bande originale de O Brother, sortie en 2000, dans ce road movie où est portée par les ballades country, essence même de la musique populaire américaine, The Soggy Bottom Boys, alias George Clooney, John Turturro et Tim Blake Nelson enregistrent leur version de I Am a Man of Constant Sorrow de Dick Burnett.
In constant sorrow. Where I was
was born and raised, the place where he was born and
En plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Ben il a raison, petit Michel Blanc, il va conclure, et puisque oui. C'est le jingle de notre séquence coup de cœur, et ce sera le dernier coup de cœur de la saison, d'ailleurs. Et pour ce dernier coup de cœur, ben Patrick, on vous a chargé de
le produire faire, à vous l'honneur. Un petit
coup de cœur. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Ouais, non, c'est normal.
Je vais en profiter.
De toute façon, c'était prévu. Alors.
Pour tousser un peu.
Oui. Allez-y.
Non, mais c'est pris sur mon temps d'antenne ou pas ?
Oui,
non,
bien
pas
sûr.
Du tout. Ah bon ?
Bon, d'accord. Alors, je vais vous parler. On va retourner aux États-Unis.
D'accord.
Parce que je vais vous parler de romans policiers.
D'accord.
Parce que j'ai une passion non dissimulée pour les romans policiers. Passion que je partageais avec ma petite sœur. Vraiment une vraie passion commune. Et nous échangions des livres. Et ça a commencé avec Patricia Cornwell, dont nous avons lu toute l'œuvre à l'époque. Et donc, on a commencé comme ça. Et après, moi, j'ai un peu bifurqué vers d'autres romanciers, dont le célébrissime Michael Connelly,
oui,
qui a écrit des œuvres absolument invraisemblables, dont Le Poète, qui est un roman fabuleux où un criminel dépose une rose sur le corps du cadavre qu'il vient de laisser avec un morceau de poème de Baudelaire. C'est absolument saisissant, ça fait froid dans le dos, un peu comme tout à l'heure les propos sur le No Country for Old Men. Donc voilà, j'ai une passion pour Michael Connelly parce qu'il a aussi écrit des films comme Créance de sang, qui sont devenus de très très grands films, Clint Eastwood,
ouais,
notamment.
Tout à fait.
Il a écrit vraiment des choses fabuleuses. Le deuxième romancier auquel je voudrais faire référence, c'est un autre romancier américain qui s'appelle Jonathan Kellerman, qui lui est un ancien pédopsychiatre qui s'est reconverti dans la littérature. Le premier roman, c'est en fait un peu son histoire. C'est l'histoire d'un pédophile qui se suicide dans son cabinet. Et donc, il veut savoir pourquoi, et il veut aller chercher. Et de ce fait, lui, menant une véritable enquête, il va écrire son petit, une sorte de journal intime. Et donc, Alex Delaware, ce personnage, est très, très ami avec ce Surtees, qui est un commissaire obèse et homosexuel de Los Angeles.
D'accord.
Et tous les deux, ils vont nouer une amitié une amitié très très virile et c'est vraiment très très chouette. Moi je vous encourage vraiment,
d'accord,
vraiment, ouais, Fleuve Noir, édition du Seuil, ouais. Fleuve Noir, Michael Connelly et Jonathan Kellerman. D'accord. Il y en aurait plein d'autres, mais ce sera, oui, pour une prochaine émission.
D'accord. Eh ben oui, bah, très, bon, bien alors. Eh ben oui, eh ben oui, voilà, Cinéscence, c'est fini.
Ah non,
mais pour aujourd'hui.
On avait dit qu'on pourrait jouer,
ah, oui, non, vous pouvez retourner fêter l'anniversaire de Roberto Rodriguez,
non,
qui est né le 20 juin 1968. C'est un réalisateur.
Ah, d'accord.
Oh là là, il faut, bon, tout vous apprendre. Bah, oui. Et pour mettre l'ambiance d'ailleurs à cette fête d'avenir, anniversaire, vous pouvez toujours réécouter le podcast de l'émission sur le site d'Eau de Radio, d'accord, ou sur celui du Centre Culturel.
De ce nom.
De ce nom,
oui,
tout
parce
à
qu'on
fait.
On s'adresse à beaucoup de gens, vous savez.
Mais oui, c'est vrai. Le, ouais, Centre Culturel de ce nom. Ouais. En attendant, notre retour en direct mardi, ouais, prochain pour ce qui sera le dernier épisode, oh, de la saison.
The last but not least.
Yes.
Et alors, ce sera
et
quand?
Et l'heure?
Eh bien, ce sera à 14h sur Eau de Radio, bien entendu.
Ah,
ben
vous,
hein,
ah, vous faites bien, bah, de le dire.
Pas bien. Bah, oui, hein. Durant l'heure passée, nous vous avons fait part de nos préférences au niveau des réalisateurs. Mmh. Pour finir, c'est au tour de la chanteuse Juliette de vous faire part de la sienne, préférence, avec sa reprise de la chanson de Julien Clerc. Allez, à mardi prochain et en attendant...
Bon vent à tous. Façon d'être à moi parfois vous déplaît, autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est... Autour d'elle et moi le silence.